L'histoire que j'aimerais vous raconter parle de cette catégorie particulière d'hommes que sont les employés aux écritures, qu'on appelait autrefois scribes ou copistes, et au sujet desquels aucun auteur, à ma connaissance, n'a jamais rien écrit. La nature de mon travail m'a mis en relation durant mes 30 dernières années professionnelles, ben oui, je suis un homme d'un âge respectable, avec un grand nombre de ces gens-là. Des gens tout à fait dignes d'intérêt, je dois dire, plutôt singuliers. Je pourrais à leur sujet vous raconter bien des anecdotes, qui feraient tout aussi bien sourire ceux d'entre vous qu'on appelle bon public qu'arracher des larmes aux âmes sensibles. Mais pas une biographie complète d'un de ces gras de papier ne vaudrait le moindre passage de la vie du plus étrange des petits employés que j'ai connus ou dont j'ai jamais entendu parler. Bartleby. Car nul ne pourrait raconter la vie entière d'un Bartleby. C'est une perte immense pour la littérature. Et je ne possède pas suffisamment d'éléments pour fournir une biographie complète et satisfaisante de ce personnage-là. De lui, on ne peut rien savoir de certain. Qui il était, d'où il venait. Les sources sont maigres. Je ne sais, ne vous livrerai donc de Bartleby que ce que mes yeux éberlués ont pu voir. À part peut-être une rumeur. Une rumeur dont je vous parlerai plus tard.
Voilà, nous avons le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-Marc Chotteau. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que pour moi, tu es dans l'histoire de cette émission, un de mes premiers invités, et tu continues à être fidèle au poste.
Bah oui, fidèle. Je vous écoute de temps en temps. Ouais. Mais enfin, ne me mets pas dans la catégorie des dinosaures quand même.
Non, bien sûr. Mais des références, on pourrait, ou des référents théâtraux.
Oui, je comprends pas bien la question.
Que tu es une source d'inspiration et un cap, quelque part, quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de recul sur ce qui est présenté, non seulement en théâtre, mais peut-être en littérature aussi. On s'est retrouvé notamment pour la remise d'un prix, peut-être on peut en parler rapidement.
Oui, je faisais partie avec grand plaisir du jury du prix littéraire du Cheval Blanc, qui est un prix littéraire qu'on donne à un nouveau roman et qui est décerné dans ce café formidable de la rue des Sarrasins à Oisem, le prix du Cheval Blanc. Oui, c'est ça, donc je m'intéresse bien sûr à la littérature et souvent pour la porter au théâtre. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé là avec le spectacle que je présente en ce moment à Tourcoing pendant un mois, qui est une adaptation d'un roman, d'une nouvelle plus exactement, de Herman Melville.
Un personnage incroyable, ce Bartleby.
Oui, incroyable. Je vous ai lu le début de la nouvelle, où celui qui parle, c'est un notaire qui va engager un nouveau copiste. Quelqu'un dont le boulot consiste bêtement à copier, recopier, recopier. Et un personnage tout à fait étrange parce que, après 3 jours de travail acharné, dès que son patron de notaire va lui demander de faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, il va lui répondre, dans la version originale, ça donne « I would prefer not to », c'est-à-dire « j'aimerais mieux pas ». Et c'est ce personnage extraordinaire qui est le héros de cette nouvelle, qui va, dans un premier temps, aimer mieux pas travailler, et puis ensuite refuser totalement de travailler. Avec cette chose extraordinaire, c'est que son patron va jamais avoir les moyens de le virer.
Alors, tu sais que ce genre de personnage, enfin de personne, hein, ça existe même en Chine. Des gens qui y vont au travail, mais qui ne font rien. Ils disent, pour la société qu'on vit, c'est pas la peine, on va faire le minimum, on va même faire des choses peut-être contre-productives, on va essayer d'exister en étant au travail.
C'est très très juste, mais pas seulement en Chine, mais dans le monde entier, puisque depuis le Covid, on s'est rendu compte à travers les réseaux sociaux, notamment le TikTok, que des gens envoient des vidéos pour montrer comment ils peuvent ne rien faire au travail sans se faire virer. Mmh. Ça devient un gag. C'est un phénomène qui est parti de quelque chose qu'on appelait the big quitting, la grande démission, et qui est devenu the quiet quitting, c'est-à-dire la démission silencieuse, le fait de rester au boulot en le contestant, mais sans se faire virer, en y restant et sans faire d'esclandre, un peu comme Bartleby. Et beaucoup de tes collègues de la presse, hein, télé, radio, du Figaro à France Culture, en passant par les émissions comme C'est dans l'air, etc., disent, mais c'est extraordinaire ce phénomène, mais c'est pas un phénomène si contemporain que ça, puisque un certain Herman Melville, en 1853, avait inventé un personnage qui ressemble à ces gens-là qui se répandent sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Voilà. Et du coup, il se trouve que ce roman que j'ai envie d'adapter depuis très longtemps trouve une actualité incroyable, absolument incroyable.
Donc la création, c'était il n'y a pas longtemps, hein?
C'était il y a
la semaine dernière.
La semaine dernière, c'était mercredi dernier. Voilà, nous sommes partis jusqu'au 15 avril, mm-hmm. jusqu'au samedi 15 avril. Bon, c'était pas prévu, mais le succès est tel qu'on a dû prolonger. Mm-hmm. Donc nous en serons ce soir à la 7e représentation.
Mm. Donc ce roman, hein, donc il est ancien, il a été dépoussiéré peut-être pour le spectacle ?
Oui et non. Si dépoussiéré veut dire ne pas être fidèle, il n'est pas très dépoussiéré, parce que je pense être très fidèle au chef-d'œuvre d'Herman Melville. Maintenant, est-ce que c'est dépoussiéré que de le rendre présent, compréhensible, permettre la réflexion aux spectateurs sur quelque chose qui a été écrit en 1853? Effectivement, dans ce sens-là, j'ai adapté le contexte historique. Ça se passe pas comme chez Herman Melville à Wall Street. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Une histoire de Wall Street ». Mais je craignais que toutes les références qu'il peut y avoir dans le bouquin au début du capitalisme triomphant, avec ces immeubles qui se chevauchent pour gratter le ciel, ne seraient pas compréhensibles pour un public d'aujourd'hui. Or, ce que raconte Melville dans cette histoire de Wall Street, c'est le début d'un nouveau monde, c'est la bascule d'un monde à l'autre. Et je me suis dit qu'il y avait un autre moment de bascule que j'ai vécu. Parce que je suis, comme le personnage qui parlait tout à l'heure, je suis un homme d'un âge respectable. J'ai vécu 68, j'étais étudiant ici même, sur le campus d'Annapes. Hein, voilà, dans le bâtiment de Lettres Modernes, qui était un bâtiment provisoire. Et j'ai vécu 68, et je me souviens à quel point ça a été une cassure, le début d'un changement de civilisation, quasiment, un peu comme celui dans lequel se situe le roman de Melville. Et donc je situe, sans vraiment le dépoussiérer, parce qu'il n'y a pas de poussière sur le bouquin de Melville, mais je situe l'action en 68, au moment où on écrivait sur les murs « Il est interdit d'interdire ». C'est-à-dire, peut-être que s'il est interdit d'interdire, il est permis de désobéir, comme le fait ce personnage de Bartleby, qui répond à son patron « J'aimerais mieux pas le faire ».
Donc, à l'époque de Melville, est-ce que il y avait déjà une sorte de critique de cette société qui allait arriver, et est-ce que il arrivait lui à se projeter dans l'avenir, et bien sûr à projeter dans l'avenir ses lecteurs?
Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que Melville s'interrogeait. C'était un personnage un peu dépressif et s'interrogeait sur le sens du travail. Hein, et sur ce travail qui n'est pas très valorisant pour celui qui le fait, qui le pratique. Maintenant, est-ce qu'il y a une critique politique explicite dans le bouquin de Melville? Je pense pas. C'est plutôt quelque chose d'humain qu'il ressent et qu'il traduit dans sa nouvelle sur cette mélancolie qui s'empare des travailleurs parfois.
Donc Jean-Marc Chouteau, le spectacle, il est composé en plusieurs séquences, il y a une organisation interne ?
J'ai gardé une partie de la structure de la nouvelle qui est constituée d'un seul récit. C'est le notaire qui parle. Vous avez entendu le début de son intervention au spectateur ou à ses lecteurs que j'ai lu en début d'émission. C'est le notaire qui parle et j'ai gardé un peu de ce récit-là. Mais bien entendu, j'ai transformé le roman en dialogue entre cinq personnages pour cinq comédiens. J'ai abandonné quelques personnages secondaires. Et le spectacle se compose comme une alternance du récit au style dramatique avec des dialogues dans un décor particulier, qui change d'ailleurs.
Donc je ne sais pas le nombre de pages au départ et pour arriver à une durée combien de spectacles ?
Les gens sont souvent surpris qu'un spectacle de théâtre d'une heure cinquante, c'est le cas de mon spectacle, je l'ai sous les yeux, c'est écrit très large, on va dire, en 50 pages, quoi. Mm-hmm. 50 pages. La nouvelle, si je faisais l'équivalent de la police d'écriture que j'ai là sous les yeux sur mon manuscrit, enfin sur mon manuscrit tapuscrit, ferait, 120 pages. La nouvelle, c'est une. En livre de poche, ça doit faire 80 pages. Mmh, 80 pages. Donc, 80 pages, évidemment, c'est. Si on disait les 80 pages avec le temps du théâtre, on en serait à 4 ou 5 heures.
Voilà, donc, ce n'est pas une lecture, mais.
Non, c'est vraiment une adaptation.
C'est une adaptation. Oui, avec je trouve que. Une mise en scène.
Oui, il y a une mise en scène, il y a une scénographie, il y a un décor, il y a des changements de décor. Il y a des comédiens qui sont costumés comme en 68. On entend la radio, on entend Europe 1 qui parle des barricades d'étudiants, etc. On entend « Salut les copes hein, !» ouais. et des airs qui trouvent leur signification tels que je les ai intégrés dans l'action. Si j'avais un marteau, pour moi la vie va commencer. C'était des airs, des yéyés d'époque. Voilà. Mais ça ne gêne pas du tout la fidélité ni la compréhension de l'œuvre de Melville. Oui, donc c'est une œuvre dramatique. C'est ce que j'aime bien faire, que j'ai fait souvent, que j'ai eu la chance de faire dans des pièces adapté de Diderot, de Balzac, avec les petites misères de la vie conjugale ou choses comme ça. J'adore porter au théâtre des romans, mais dont je ne fais pas des simples coupures. Je trouve qu'on appelle abusivement adaptation aujourd'hui des textes qu'on a simplement coupés, on les a raccourcis. Non, une adaptation, c'est la transformation totale d'une œuvre littéraire romanesque avec ses codes, ses structures, en une pièce de théâtre avec des personnages, des dialogues et des décors.
Alors quand on dit dramatique, compte tenu du thème, on peut se dire qu'il y a aussi de l'humour derrière, voire de la provocation qui peut en faire une partie de comédie.
Oui, quand je dis dramatique, je veux pas dire, je parle pas du drame, hein, mais je parle comme de l'art dramatique, c'est-à-dire l'art qui met en scène une action. Drama en grec, c'est l'action, hein, mais dans la pièce, il y a effectivement un mélange de comique et de dramatique. Et il y a une action parce que les choses avancent au fur et à mesure de la pièce. On se demande qu'est-ce qui va se passer dans la relation bizarre entre ce notaire et ce jeune scribe. Copiste dont la relation est de plus en plus étrange au fur et à mesure qu'avance le spectacle, mais je voudrais pas divulgâcher le truc parce qu'à la fin il y a
ça bouleverse. Petit conseil, Jean-Marc Chouteau, est-ce qu'il est important de lire ou de ne pas lire le livre avant de voir le spectacle?
Je sais pas, sais pas.
On peut pas divulgâcher.
Oui, ça divulgue. L'important au théâtre, surtout dans le théâtre que je pratique, c'est pas tellement ce qu'on raconte, mais un peu comme le voulait Brecht, c'est la façon dont on le raconte. Et donc on peut à la limite savoir la fin, mais voir comment on s'est emparé d'une œuvre qu'on a déjà lue pour en faire autre chose et qui a sa propre signification, sa propre émotion, ses propres rires. Mais en même temps, je suis super content et peut-être plus content encore quand les gens me disent à la fin du spectacle oh, « qu'est-ce que ça donne envie de le lire ?» En plus, c'est court.
Donc, c'est peut-être bien aussi de le conseiller après, approfondir un peu les choses.
Oui. En plus, le spectacle n'est pas compliqué, c'est pas une prise de tête. On n'a pas besoin d'avoir un mode d'emploi avant. On peut venir voir le spectacle sans idée préconçue, puis se laisser porter par cette étrange histoire, très étrange histoire. Hein. Ouais, vraiment.
Est-ce qu'Herman Melville a fait d'autres livres, je pense à Moby Dick, et d'autres choses?
Il a écrit beaucoup de nouvelles, tout aussi intéressantes, histoire autour du feu par exemple, dont certaines que j'avais envie d'adapter, mais non, il est surtout connu pour Moby Dick, Capitaine Ahab, qui est une autre façon de parler. Enfin bon, non, j'allais divulgâcher, là. J'emploie pas le mot.
Alors, c'est bien sûr une création, La Virgule. On peut peut-être rappeler le concept de La Virgule. Hein.
Alors, La Virgule, c'est une compagnie que j'ai créée. Tu parlais de m'avoir reçu en 83. Ah, oui. C'était les débuts. Je l'ai créée en 82. Elle s'appelait très immodestement du nom de ma pomme. Et puis, c'était donc la compagnie Jean-Marc Chouteau qui est devenue La Virgule en 98. En devenant un centre transfrontalier de création théâtrale, implanté à Tourcoing, mais s'efforçant de faire des spectacles transfrontaliers, mes propres spectacles incluent des décorateurs, des comédiens, des artistes belges dans les distributions, et puis la programmation que La Virgule propose à Tourcoing et à Mouscron à cette époque-là, et donc une programmation qui invite des compagnies nationales françaises et belges et quelques compagnies régionales de talents du Nord-Pas-de-Calais et aujourd'hui du Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui est important de montrer au public.
Voilà, donc une saison et un abonnement qui a été proposé en son temps, peut-être qu'on peut poursuivre d'ailleurs, et on peut dire aussi que le site où on peut retrouver les éléments, lavirgule.com, ça n'a jamais changé ça.
Non, lavirgule.com, vous aurez toutes les informations d'une saison formidable qui se déroule très 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 bien cette année, qui va se terminer avec des petits chefs-d'œuvre comme toutes les choses géniales qu'on va jouer à la Maison Folie de Tourcoing en mai, je crois, et on terminera avec un spectacle qui s'appelle La Lettre, qui est un spectacle qui a tourné dans le monde entier. Un seul comédien sur scène, non pas dans notre petit plateau du Salon de Théâtre, mais au Théâtre Municipal de Tourcoing, il y a 800 places, et c'est un seul comédien, une table, une carafe, un verre et une lettre. Et c'est un spectacle inoubliable, d'une drôlerie irrésistible.
Voilà, donc on va revenir aux dates de programmation de Bartleby. Alors, j'hésitais entre Bartleby et Bartleby, alors bon...
Bartleby.
Voilà, hein. Non mais j'hésitais avant.
Hein. Ouais, mais on n'hésite plus.
On n'hésite plus. Hein. Et donc, on va dire qu'il y a des représentations jusqu'au 15 avril, donc ouais. Je ne vais pas dire qu'on a encore le temps, mais c'est le moment.
C'est le moment. Et puis, si jamais des gens nous appellent, ça nous fera plaisir, même s'il n'y a plus de place, parce qu'on prendra leur nom et on est en train de discuter de la possibilité d'une reprise, parce qu'on va faire le plein là pendant un mois. Mais il y a un tel engouement sur le spectacle qu'on envisage ces jours-ci. Et donc, que vos auditeurs appellent, ça nous sera très utile de pouvoir compter sur eux pour une reprise éventuelle.
Éventuellement, une idée de tournée ?
Oui, bien sûr. J'ai à côté de moi Célina, qui est chargée de notre diffusion, et on espère, vous savez, c'est jamais gagné. Nous sommes de nombreuses troupes de théâtre en France qui produisent des spectacles dignes d'être vus, et il faut se faire son chemin à travers cette forêt de propositions.
Donc pour l'instant, il y a le bouche à oreille, puisque d'un spectateur à l'autre, ça peut se transmettre, la passion du théâtre, mais de ce spectacle-là en particulier. Cette idée de prolongation aussi, et de tournée. Est-ce qu'il y a d'autres événements, Jean-Marc Chouteau, signé Jean-Marc Chouteau, au théâtre La Virgule cette année ?
Je suis pas capable de faire plus d'un spectacle comme ça. J'en fais généralement deux. Je mets en scène deux spectacles en 3 ans.
D'accord. Hein,
et la troisième année, ou entre deux, nous avons des reprises de nos spectacles. On a la chance, à La Virgule, d'avoir une espèce de répertoire, car il y a des spectacles qu'on peut encore offrir. Si des auditeurs qui sont responsables de salles ou de programmation nous entendent, sachez que une création d'il y a 4 ans, L'École des femmes de Molière, là, un classique, un peu revisité, mais très classique en même temps. Tout peut tourner encore. La comédie du paradoxe que j'établis tourne encore. Prise de bec au Galodrome, qui est un de nos plus grands succès, qu'on a créé en 2000 et qui se joue depuis l'an 2000 tous les ans. C'est 23 ans que je retrouve les mêmes comédiens pour jouer ce spectacle où on montre des des scènes de ménage, des prises de bec, mais dans le cadre très particulier d'un galodrome, là où se pratiquent habituellement les combats de coqs, mais là où on voit maintenant les coupes se dresser sur leurs ergots, se voler dans les plumes. C'est un spectacle très drôle et en même temps qui fait entendre des grands textes du répertoire, avec des combats de coupes et non pas des combats de coqs. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme spectacle? Il y a un spectacle sur Jacques Brel qui s'appelle Brel est une langue vivante, qui tourne. Nous étions dans la région de Valenciennes il y a peu de temps, ils vont tourner encore, voilà, et je prépare, je suis en train de réfléchir. Dès que on aura fini avec provisoirement avec Bartleby, je vais me mettre à écrire jusqu'à cet été un projet pour, je pense, la fin de l'année prochaine.
Ben voilà, une actualité bien chargée. Donc je rappelle, jusqu'au 15 avril au Salon de Théâtre Tourcoing, il y aura une représentation en plus le 15 avril, je vois, à 17h. Hein.
À 17h, les autres jours c'est à 20h. C'est à 20h, relâche le lundi, donc 20h tous les jours, samedi à 17h. Il y a un petit débat après chaque représentation, qui dure 1h50. Voilà. Pas le débat, la représentation.
Donc le salon est situé où dans la ville? Il y a une adresse?
Le salon de théâtre, c'est métro Carlier pour les gens qui viennent en métro. C'est très facile d'accès en venant de Lille par la voie rapide ou par le Grand Boulevard. C'est boulevard Gambetta. Et je voudrais, si j'ai une minute, merci, ne pas oublier de citer la distribution incroyable sans laquelle j'aurais pas pu faire ce spectacle, et il aurait eu certainement moins de succès si j'étais pas entouré du formidable Éric Leblanc qui joue le notaire, qui a un rôle énorme, ce notaire qui va être très compatissant, très tolérant vis-à-vis de son employé qui refuse de bosser. J'ai découvert un jeune Bartleby, qui est un ancien élève du conservatoire de Lille, il y a une trentaine d'années, et qui a un Bartleby extraordinairement touchant, mystérieux, qui a une belle gueule d'ange, et que j'ai pu découvrir à la suite d'un casting qui n'était pas si simple à faire, mais il a éclaté. Son talent a éclaté et l'a rendu absolument indispensable pour le spectacle. Je joue moi-même un petit rôle dans le spectacle, un rôle de copiste, à côté d'Arnaud Devincre, qui est aussi un des comédiens qu'on va retrouver dans la compagnie, qui jouait déjà dans l'école des femmes. Et puis un de nos élèves, un élève de 60 et quelques années, mais toujours jeune, qui s'appelle Eddie Van Overscheld, car nous avons effectivement à la virgule une école de théâtre, des ateliers de théâtre, où il faut avoir 18 ans, passer un petit concours d'entrée et rester avec nous pendant 3 ans, ce qui a permis à Eddie de jouer le rôle d'un officier pénitentiaire dans cette pièce.
Voilà, Bartleby ou J'aimerais mieux pas, d'après le roman d'Herman Melville, donc au Salon de Théâtre de Tourcoing. Merci Jean-Marc Chotteau.
Merci à tout le monde.